Chapitre 18. Divine partie, Marichette s'enfonça la tête sous les draps, frissonnante. Ce n'était pas seulement ses oreilles qui étaient offensées, comme disait la servante, c'était tout son être qui se révoltait. Son cœur battait à coups sourds, ses dents claquaient, des larmes coulaient sur ses joues. Elle éprouvait un si grand trouble dans ses idées qu'elle ne savait ce qu'elle pensait, mais toujours lui revenaient les paroles de Divine qui l'oppressaient, qui l'étoffaient. Son cousin. Mais ce qu'il y avait d'horrible, c'est qu'en même temps lui revenaient aussi les paroles de Sélanie qui, bien des fois, l'avait assiégée, qu'elle avait toujours chassée loin d'elle, mais qui maintenant s'imposait, aveuglantes et implacables. Toutes les servantes de Simon Belloc sont sorties enceintes de chez lui. Tout ce qui l'approche est flétri et à jamais déshonoré. Quand les femmes ne servent pas à ses plaisirs, elles servent à ses intrigues, à son espionnage. Sélanie, elle n'avait pas voulu la croire. Contre Divine, elle s'était révoltée. Mais maintenant, les accusations d'autrefois se mêlaient à celles qu'elle venait d'entendre et, s'ajoutant les unes aux autres, elle l'épouvantait. Était-il vraiment possible que son cousin eût une drôle de manière de la regarder? Cette malheureuse, dans son égarement, ne savait ni ce qu'elle voyait, ni ce qu'elle disait. Mais elle n'était pas égarée, Sélanie, quand, de son côté, elle avait dit qu'une honnête fille n'habitait pas sous le toit de M. Belloc aîné. Par une bizarre opération de la mémoire, ces paroles, qu'elle avait toujours repoussées, s'étaient gravées dans son esprit et elles lui revenaient maintenant mot à mot avec une cruelle fidélité. De même lui revenaient aussi les questions de Madame Voisin et de Madame de la Broquerie, dont la première fois elle entrevoyait le sens mystérieux. Toute jeune fille qui a vécu auprès de M. Belloc doit renoncer à se marier. À cette évocation, elle se redressa brusquement et poussa un cri « Paulin !» Que ces femmes eussent pu la soupçonner, c'était horrible. Mais lui ! Affolée, elle sauta à bas de son lit, ne sachant ce qu'elle faisait, répétant machinalement, sans penser qu'on pouvait l'entendre « Paulin ! Paulin !» Mais ce cri inconscient, qui ressemblait à la plainte d'un enfant appelant « Maman ! Maman !» lui rendit la raison. De pareils soupçons ne pouvaient pas atteindre une âme comme celle de Paulin. C'était lui faire injure que d'avoir peur. Cette pensée la calma un peu, mais elle ne chassa pas l'horrible impression des confidences de Divine. Que Paulin fût au-dessus et en dehors de cette mer d'infamie, cela était tout naturel. Mais enfin, il n'en restait pas moins évident qu'elle-même se débattait au milieu de cette mer, et tout ce qui venait d'être dit, de même que les paroles de Sélanie comme celles de Madame Voisard et de Madame de la Broquerie, la paralysaient. Que faire ? L'heure de descendre au bureau arriva, sans qu'elle eût rien arrêté, car toutes les résolutions efficaces qui se présentaient à son esprit troublé étaient impraticables. Celles qui paraissaient faciles étaient absurdes ou chimériques. Une seule mettait fin d'une façon radicale aux hontes et aux dangers de cette situation, la fuite. Mais fuir cette maison, c'était en même temps fuir Paulin. Que penserait-il ? Que lui dirait-elle ? Fuir, n'est-ce pas s'avouer coupable ? Et puis, où aller ? Elle ne voulut descendre que lorsque Paulin serait arrivé. Elle resta donc à sa fenêtre, le guettant. Justement, il était en retard ce matin-là. À la fin, elle l'aperçut, marchant à pas hâtés, ne pensant pas à regarder en l'air. Ce fut seulement en approchant de la maison qu'il redressa la tête et qu'il la vit penchée à la fenêtre. Alors, ralentissant le pas et tenant les yeux élevés vers elle, il tira de sa poche un petit bouquet de roses de Bengale, les premières de la saison. « Voilà la cause de mon retard, » disait son regard heureux. Elle ne répondit rien, mais ce simple regard chassa instantanément les horreurs de la nuit. Quand on est aimé comme elle se sentait aimée, on n'a rien à craindre. Maintenant, elle pouvait descendre, il serait là. Comme elle traversait le vestibule, elle trouva le facteur de la messagerie qui balayait. C'était une espèce de loustique appelé Benjamin, le meilleur ami de Liché, presque aussi grand ivrogne que celui-ci, et dont l'ambition était de devenir garçon de cave afin de pouvoir boire à sa soif du matin au soir, sans compter et sans payer. « Eh bien, mademoiselle Marichette, » dit-il en lui barrant le passage avec son balai, « il y a du nouveau à la maison. » Se doutant de ce qu'il voulait dire, Marichette essaya de passer, mais il continua. « Divine est partie par la voiture de 6 heures. Elle va rejoindre les autres. Oup, ça lui apprendra !» Marichette fut indignée. « Que vous avait-elle fait ? » dit-elle. Il parut étonné. « Ma foi, rien. »« Eh bien, ce que vous dites là est mal, très mal. » Et elle passa devant lui sans qu'il comprît un mot à cette algarade. « Alors, si l'on ne peut plus rire des filles enceintes !» Quand elle rentra dans le bureau, son oncle était à sa place habituelle et elle dut passer devant pour s'asseoir à son pupitre. Elle eut alors la sensation qu'un regard noir l'enveloppait, mais elle tenait ses yeux si obstinément baissés qu'elle ne se troubla pas autant qu'elle l'avait craint. Paulin n'était-il pas là, d'ailleurs ? Mais bientôt, Paulin dut partir, et peu après, Belloc sortit aussi. Elle avait quelques heures devant elle. Elles passèrent vite, et le moment du déjeuner arriva. C'était l'instant critique, celui où elle allait se trouver seule avec son oncle, s'il rentrait. Il ne lui avait rien dit en partant, et bien entendu, elle n'avait pas osé l'interroger. Quel soulagement s'il ne rentrait pas! Il est vrai qu'après le déjeuner, il y aurait le dîner, mais elle ne voyait que le moment présent. Du temps gagné, tout était gagné. À son heure habituelle, il arriva et, de la porte, sans entrer dans le bureau, il lui fit signe de le suivre. Elle eut une seconde d'hésitation, mais elle obéit et le rejoignit dans la salle à manger. Pendant toute la matinée, elle s'était dit qu'elle ne devait point céder à la peur, comme elle l'avait fait en descendant au bureau, et qu'au lieu de baisser les yeux de façon à ne rien voir, elle devait les lever sur son cousin et affronter son regard. Divine pouvait très bien s'être trompée. Elle était assez malheureuse pour avoir perdu le sentiment de la justice et admettre des soupçons qui, en réalité, ne reposaient sur rien. Ce n'était pas ce que disaient les autres qui devaient l'effrayer ou la rassurer, c'était ce qu'elle constatait elle-même. Il la regardait d'une drôle de manière. Ce qui pouvait être drôle pour Divine exaspérée pouvait être tout naturel pour elle. À la vérité, elle s'était toujours sentie mal à l'aise sous son regard, mais c'était par timidité, par peur, parce qu'elle voyait en lui un homme dur, prompt aux reproches, insensible à tout ce qui n'était pas son intérêt. Jamais, si grande que fût sa gêne, elle n'avait cherché ce qu'il pouvait y avoir dans ce regard, en dehors de la responsabilité qu'elle avait peut-être encourue et des reproches qu'elle méritait sans savoir pourquoi et à propos de quoi. Comment une autre idée eût-elle pu traverser son esprit? Si, depuis longtemps déjà, il n'était point un second père, comme elle croyait qu'il en serait un, lorsqu'elle était arrivée à Saint-Maclou, la tête et le cœur encore pleins des paroles de sa mère, au moins ce n'était pas un homme, surtout ce n'était pas un jeune homme. Mais maintenant, les paroles de Divine avaient porté une lumière sinistre dans son esprit et toutes sortes de choses obscures qu'elle soupçonnait à peine, sans même leur donner un nom, sans même les croire possibles, s'étaient dressées devant elle menaçantes, comme si, tout à coup, Divine avait écarté un rideau qui les lui cachait. Maintenant, il fallait qu'elle les admît, ces choses, et même, il fallait qu'elle les regardât. Elle s'était affermie dans cette idée, et c'était parce qu'elle s'était imaginée que plus elle aurait le temps de la réflexion, plus elle se donnerait de courage, qu'elle avait espéré qu'il ne rentrerait pas déjeuner. Mais puisqu'il était rentré, elle ne devait pas faiblir. En arrivant dans la salle à manger, elle leva donc les yeux, et pour la première fois de sa vie, elle le regarda en face. Mais lui ne la regardait point. Il avait ouvert le buffet et il prenait des assiettes et des verres pour les mettre sur la table. « J'ai renvoyé Divine, dit-il. Elle est partie ce matin. C'était une coureuse. Elle ne pouvait pas rester ici plus longtemps. Nous voilà donc sans servante. » Elle n'avait rien à répondre. « En attendant que j'en ai trouvé une autre, veux-tu nous faire la cuisine ?»«
Volontiers, mais je dois vous dire que je ne sais pas faire la cuisine. »
« Tu feras ce que tu pourras, je ne suis pas difficile. Benjamin t'aidera pour le gros ouvrage.
Pour aujourd'hui, nous nous contenterons de ce qu'il y a. » Il n'y avait que du beurre et du fromage. Aussi le déjeuner fut-il promptement expédié. Au bout de 5 minutes, Belloc se levait de table et s'en allait. Il ne lui avait pas dit un mot, il ne l'avait pas regardé.